J'ai choisi aujourd'hui de commencer par parler de Saul de Tarse. Léa nous a parlé des mages, et pas des rois mages, mais des mages, et en nous disant qu'il y avait trois catégories de personnes, dont les pharisiens, ceux qui connaissaient la Bible, qui savaient tout, qui savaient que Jésus devait venir, que le Messie devrait venir à Bethléem, et qui n'ont pas cru, qui sont restés indifférents. Et j'avais déjà commencé à préparer mon message et ça m'a encouragée. Je me suis dit, ben moi, je suis sur la même longueur d'onde. Saul de Tarse. Saul de Tarse, il a été dans l'école de... Tu sais plus, Gamaliel.
Ah,
oui.
Je connais son maître.
Oui, son maître.
Ah, le maître, mais pas l'école.
Ah ben c'était l'école. Un maître. Quand il y a un maître, il y a une école. Non, excuse-moi. Je savais que tu savais. Il a été à l'école de Gamaliel, la meilleure école qui existe, l'école judaïque. Il a eu le meilleur enseignement possible. Il connaissait la Bible, l'Ancien Testament, mais sur les bouts des doigts, il n'y avait rien qui lui échappait. Il savait qu'il y avait un Messie qui devait venir, il y avait un Sauveur qui devait venir en Israël. Il savait certainement qu'il devait venir à Bethléem. Tout ça, il le savait. Mais quand on lui a parlé de Jésus, il s'est dit, c'est pas lui. C'est pas possible. Non. Et qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de combattre, d'exterminer les chrétiens. Il était tellement persuadé que la foi juive était la foi, ce que Dieu avait donné. C'était juste la loi, c'est ce que Dieu avait donné. Et voilà des gens qui se convertissent à Jésus, qui suivent Jésus, qui parlent de Jésus et qui abandonnent la foi juive pour ce qu'il appelle une autre religion. Donc comme il est zélé pour Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à les exterminer. Et il met toute son énergie. Rien ne l'arrête. Et Saul de Tarse, qui est devenu après l'apôtre Paul, reparle de ça. Et il dit de lui, dans 1 Timothée 1, « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié. » C'est qui l'a fortifié? Jésus. Dieu aussi. Jésus-Christ, notre Seigneur. Car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Attends. Est-ce qu'il était au service de Dieu quand il persécutait l'Église? Il le croyait. Il était serviteur de Dieu. Pour lui, il était serviteur de Dieu le plus fidèle qui soit. Admiré par tous, parce qu'au moins lui, il osait y aller. Et il devient serviteur de Jésus-Christ et en même temps serviteur de Dieu. Et comment il se qualifie? Il dit, moi qui auparavant était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Eh bien, pour que l'apôtre Paul parle d'ignorance et d'incrédulité, alors qu'il était tellement sûr, il y a vraiment une transformation totale qui s'est faite chez cet homme. De persuadé, il a reconnu qu'il était dans l'ignorance et dans l'incrédulité. Quand il a entendu le témoignage d'Étienne juste avant de mourir, Étienne a dit, juste avant de mourir, il a dit, je vois le ciel ouvert. Et le trône de Dieu, hein, dans le ciel. Le trône de Dieu et à sa droite. Jésus debout à la droite de Dieu. Jésus debout, je ne sais pas si c'est à droite ou à gauche, peut-être que tu sais mieux que moi, ça j'ai oublié le détail. Mais Jésus debout à la droite de Dieu. Et Saul de Tarse n'a pas cru. C'est pas possible. Il n'a pas cru. Mais il y a eu une transformation totale chez cet homme. Il était complètement aveugle, il ne le savait pas, il ne pouvait pas comprendre. Et il est devenu aveugle pendant 3 jours, et aveugle physiquement. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 3 jours, mais quand il est sorti de ces 3 jours d'aveuglement, il était un autre homme. Totalement différent. Et j'aime voir cette différence. J'aime voir cet homme violent qui est devenu un doux. Et quand il parle de l'évangile, juste avant, il parle de l'évangile du Dieu bienheureux. Paul, il n'avait pas une image de Dieu bienheureux. Il avait une image d'un Dieu pour lequel il faut combattre, il faut l'aider en fait. Il a vraiment besoin de l'aide de Saul de Tarse parce que Dieu, il n'arrive pas à se débarrasser des chrétiens tout seul. Et quelques années après, il peut parler du Dieu bienheureux. Est-ce qu'on sait que Dieu est bienheureux? Malgré tout ce qui se passe dans le monde, toutes nos bêtises à nous, tous nos péchés, tous nos... C'est vrai que quand j'ai vu qu'il n'y avait qu'une inscription, j'ai dit, oh, il n'y en a qu'une. Puis je me suis dit, non, mais Bernadette, elle est importante. Je suis sûre que c'est Bernadette, ça vaut la peine. Moi, je suis limitée. Moi, je ne pense pas toujours juste. Mais Dieu reste bienheureux. Dieu est bienheureux, le Dieu bienheureux. Et ça m'a fait penser, mais qu'est-ce qu'il faut pour être bienheureux comme Dieu? T'as envie de ressembler à Dieu? Non?
Oui.
Oui? Et toi, Mathéo, t'as envie de ressembler à Dieu? Roger, t'as envie de ressembler à Dieu? C'est plus concret. Mais comme Jésus ressemblait à Dieu, donc on est d'accord. Mais c'est vrai que pour ressembler à Dieu, bah, il faut vivre comme Jésus. T'as tout à fait raison. Alors je me suis dit, mais c'est le Dieu bienheureux. Bah, ça me fait penser à quoi? À Matthieu 5. Hein? Bienheureux ceux, bienheureux ceux, bienheureux ceux. Alors on va voir Matthieu 5. Et ça commence par « Bienheureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. » Est-ce que Saul de Tarse reconnaissait sa pauvreté spirituelle? Non. Hein? Il se croyait vraiment très fort, très intelligent. Il savait tout. Et le chemin, l'entrée dans le royaume des cieux, parce qu'il est dit, car le royaume des cieux leur appartient, l'entrée dans le royaume des cieux, c'est de reconnaître notre pauvreté spirituelle. Alors j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai été très... Je suis née dans la foi chrétienne. J'ai l'impression que j'ai bu Jésus avec mon biberon. J'ai aimé Jésus depuis toute petite. Mais j'ai été élevée dans un milieu très légaliste. Donc, quand je lis la description de l'apôtre Paul, alors pas tellement celle-ci, hein, j'ai pas persécuté l'Église, mais dans un certain sens, oui, j'ai été terriblement judgmental. J'ai jugé les autres. Ce que j'ai pu juger, ces femmes, ces jeunes filles qui avaient des pantalons. Mais oui! Je me souviens, alors ça c'est pas moi, mais je me souviens qu'on m'avait raconté, quelqu'un disait, une femme, on voit quand elle devient spirituelle, c'est quand elle a un chignon. Quand elle se met à avoir un chignon, là, on voit qu'elle a fait des progrès. J'ai changé, mais j'ai eu un chignon, hein. D'ailleurs, pour qu'il soit bien gros, je mettais des anciens cheveux dedans. Une fois, je l'avais perdu en ville de Genève. C'était pas très... Et il se trouvait justement qu'il y avait des pontes de l'église de Genève qui étaient là et qui m'avaient dit qu'ils m'avaient vu à ramasser mes cheveux. Bon.
La spiritualité est tombée.
La spiritualité est tombée. On peut être, mais tout pour Dieu est d'être un légalisme et d'un... Donc j'aime quand l'apôtre Paul parle d'un Dieu bienheureux. J'aime ce chant qui parle de la bienveillance de Dieu. Parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. C'est quelque chose que j'ai découvert. Mais ce que j'ai pu en dire des bêtises, parce que j'ai enseigné les enfants depuis, je pense que j'avais 23 ans, 22 ou 23 ans. J'ai commencé à enseigner les enfants, et pratiquement non-stop. Et quand on est légaliste, on enseigne quoi ? La loi. Je me souviens, je me couvrais la tête parce qu'il fallait se couvrir. La femme, elle doit porter un voile. Alors, on avait les enfants du quartier, puis ils me disaient, mais pourquoi tu mets toujours un voile quand tu parles ? Parce que moi, j'obéis à la Bible. Qu'est-ce qu'ils disaient en rentrant à la maison ? Quel était le témoignage ? J'étais dure. Et je crois que l'entrée dans le royaume des cieux, c'est reconnaître sa pauvreté spirituelle. On a tellement de choses à découvrir. On connaît Dieu tellement mal. On se trompe tellement de fois. On est spirituellement pauvre. Et on a besoin du Saint-Esprit. On a chanté « Délivre-moi de la folie de mes projets ». Ben pour ça, on a besoin du Saint-Esprit. Quand on se convertit, quand on devient chrétien, on a le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Et je ne sais pas comment vous le voyez, mais puisque j'ai rien écrit, hein, donc je n'avais pas prévu de vous parler de moi, mais moi, on m'a appris que, on m'a raconté cette histoire de la maison. C'est comme si on est une maison. Et puis on invite le Saint-Esprit, et puis on apprend, on doit ouvrir chacune de nos portes au Saint-Esprit. Pas seulement les bons côtés, mais les côtés dont je ne suis pas fière. Les côtés dont je ne suis vraiment pas fière. Les chantiers qui sont encore à venir. Et je l'ai enseigné. Et en pensant à, mais qu'est-ce que c'est que d'être le temple du Saint-Esprit ? Tout d'un coup, je me suis dit, mais attendez, ça veut dire que ma personne, j'en suis plus propriétaire. Dieu est le propriétaire de ma maison. Ça change tout. Il l'habite. C'est lui le propriétaire. Et moi, je suis invitée dans cette maison. Alors ça m'a... Je me suis dit, mais attends... Il est aussi propriétaire de ma maison physique, pas seulement de ma personne, mais est-ce que je m'occupe de ma maison de la même bonne manière ? Quand on loue un appartement, on le rend bien propre, on l'arrange, on veut que si le propriétaire y vient, qu'il trouve toutes les choses nickel. Et Dieu est là, en permanence. Je vous laisse réfléchir si ça change des choses dans vos vies. Mais moi, je sais que ça peut changer des choses. Notre pauvreté spirituelle, notre besoin du Saint-Esprit, et il est là et il veut nous conduire. Le deuxième, bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et franchement, si on se met à réaliser notre pauvreté spirituelle, toutes les fois où on se plante, on n'est pas comme Jésus, on n'est pas encore comme Jésus. Jésus, à Gethsémané, il avait envie que Dieu le sauve et ne le fasse pas passer par la croix. Il y avait ce combat en lui. Et il a dit, que ta volonté soit faite. Pas ma volonté, mais la tienne. L'apôtre Paul, il a eu le même combat. Il dit, mais il y a tellement de choses que j'aimerais faire et que je ne fais pas. Et tellement de choses que je fais et dont j'ai honte. C'est notre réalité. On n'est pas encore comme Jésus. Et si on réalise notre pauvreté spirituelle, eh bien forcément, on pleure. Forcément, si on est sensible, on se lamente devant Dieu. Et que fait Dieu ? Il nous console. Dieu nous console, et c'est le même mot que Dieu nous encourage. Un dimanche, je dis, moi j'aime venir au culte. Un dimanche, je disais à Dieu, mais tu sais, sache, je suis vraiment pas fière de ça. Et ce qui m'est venu comme pensée, mais je veux te consoler. Il y a une raison. Je veux te consoler, je veux t'encourager. Mais pour ça, il faut pleurer. Je dirais deux choses. Il faut pleurer et pleurer pour être consolé, pour être encouragé. Et des fois, on a envie de pleurer pour se faire plaindre, et pas forcément pour être encouragé, pour aller de l'avant, pour pouvoir continuer. Ça t'arrive, Benjamin, de pleurer pour qu'on te plaigne, et non pas pour être consolé. Sois honnête. Non ? Alors t'es mieux que moi. Moi, j'ai envie des fois de pleurer pour être cocolée. Ah ! Je suis une femme et tu es un homme. Mais quand même. Mais est-ce qu'on se laisse consoler ? Ou est-ce qu'on prend juste les... Comment est-ce qu'on dit ? Les cocoleries ? Et puis on repart dans nos pleurs et dans nos plaintes, ou est-ce qu'on reçoit vraiment la consolation? Le suivant, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Si on reconnaît notre dépendance totale de Dieu, de l'Esprit de Dieu, si on apprend à pleurer, à exprimer ce que l'on ressent, et pas seulement sur soi-même, mais sur les autres. On a besoin de consolation aussi pour les autres. Eh bien, ce qu'il découle, c'est qu'on est doux. On est plus violent comme Saul de Tarse, mais on est doux. Alors, si vous n'êtes pas doux, si vous êtes... Réfléchissez si vous n'avez pas à reconnaître votre pauvreté, que vous avez. Peut-être bien que vous vous battez sur des choses où vous avez tort. Et puis, reconnaissez peut-être que vous avez besoin d'encouragement. Vous avez besoin d'être consolé. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Alors, je ne sais pas tellement ce que ça veut dire. Mais ce qui m'a frappé, c'est que pas... Heureux ceux qui se battent pour la justice. Je vais changer le monde, je vais me battre. Mais heureux ceux qui ont faim et soif, qui se nourrissent de la justice. Est-ce que c'est se nourrir de Jésus? En tout cas, ce qui m'interpelle, c'est qu'il est dit, ils seront rassasiés. Quand on a rassasié, on fait la sieste. On peut être en repos. J'ai mangé des bonnes choses. Je ne me suis pas battue pour les avoir, mais des choses justes, des choses bonnes, il y en a tout autour de moi, il y en a dans la parole. Et c'est le chemin pour être rassasié. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Je me dis, attends, des fois, ce n'est pas toujours comme ça. Et pourtant, c'est ce que la Bible dit. Une chose dont on est sûr, c'est que si on manifeste de la bonté, qui a de la bonté pour nous? Dieu? Jésus. Et ça vaut de l'or, plus que de l'or. Sur le faire-part de mon grand-père, que j'ai découvert, il y a quand même 10 ou 20 ans, mais... Mon grand-père s'était mal conduit, il a eu une vie difficile, une vie dont il était... Franchement, il a eu une femme admirable. Elle s'appelait Sophie, d'ailleurs. Sagesse. Elle lui a pardonné une infidélité. Ils ont eu un enfant ensemble après. Ils ont élevé la fille qui est née hors mariage. Et quelques années après, il est mort. Et sur son faire-part, alors je ne sais pas si c'était le vœu de mon grand-père ou c'est le vœu de sa femme qui a choisi le verset. Moi, j'en sais rien. Mais ils ont choisi ce verset. La bonté vaut mieux que la vie. Et c'est vrai, si on connaît la bonté de Dieu, on a tout. Ta bonté vaut mieux que la vie. Dans une vie qui a été vraiment chaotique, mais ma grand-mère a été consolée, elle a été encouragée, et elle a pu dire au décès de son mari, ta bonté vaut mieux que la vie. Et ça ne veut pas dire, youpi, il est mort maintenant. Non, c'est vraiment, en tout cas, j'ai reçu vraiment dans le bon sens du terme. Connaître la bonté de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui sont tout pour Dieu. Où il n'y a pas de... Je parlais de la maison. Il n'y a pas de coins qui sont... Heureux ceux qui se laissent purifier. Et quand il y a quelque chose qui vient à la surface qui n'est pas beau, ils l'avouent à Dieu et aux personnes concernées. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Et vous savez quelle est la promesse pour ceux qui ont le cœur pur, ceux qui se laissent interpeller par la parole de Dieu, par Dieu lui-même. Quelle est la promesse? Vous savez? Tu sais? Ils verront Dieu. Waouh! Alors, je ne sais pas comment ça se passe, mais moi, je sais que je ne vois pas Dieu, mais je vois ce qu'il fait. Et tout d'un coup, je me rends compte, mais ah non, mais ça, c'est Dieu. Ça peut être que Dieu. Je dirais heureux ceux qui sont honnêtes, qui sont foncièrement honnêtes devant Dieu. Et Dieu se manifeste. Et l'avant-dernier, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, frères de Jésus, ça te va? Heureux ceux qui procurent la paix. Et c'est un défi. Et pour procurer la paix, eh ben, il faut connaître le pardon pour soi-même. Connaître le pardon pour soi-même, connaître la grâce et faire grâce. Heureux ceux qui procurent la paix. Et la parole est réaliste, Jésus est réaliste, parce que ça finit par heureux ceux qui sont persécutés. On a beau faire tout juste, si j'ose dire comme ça, mais de suivre l'exemple de Jésus, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas persécuté. Ça ne veut pas dire qu'on sera compris. Heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils font juste. Mais on sera consolé. Et pas seulement quand on arrivera au ciel. Dieu viendra avec un grand mouchoir et puis nous essuiera toutes nos larmes. Mais on sera consolé aujourd'hui. Donc si on veut être bien heureux, si on veut connaître ce bonheur, eh bien c'est le chemin. Et ce chemin commence par reconnaître sa pauvreté en esprit, dépendre du Saint-Esprit, ne rien faire sans Dieu et reconnaître qu'on n'y arrive pas. Pleurer et implorer la grâce. Et il la donne, il encourage, il nous relève, il nous dit « Allez, je savais bien, attends. Tu te fais des illusions. Tu crois que tu y arrives. Mais attends, fais-le avec moi. Moi, je veux marcher devant. » Et on a l'exemple de Jésus. Jésus qui était humble, qui était pauvre en esprit, qui ne faisait rien par lui-même. Il faisait tout. Il faisait ce que le Père lui disait de faire, totalement dépendant de son Père. Et ça va nous conduire à prendre la Sainte Cène pour remercier Jésus de ce chemin qu'il nous a ouvert, de ce qu'il a fait pour qu'on puisse connaître ce bonheur, cette communion avec le Dieu bienheureux. Et c'est un défi parce que le monde, les nouvelles, tout ce que, ça fait tout pour nous mettre en colère. Et on a le choix, vivre dans le monde ou vivre dans la communion de ce Dieu bienheureux qui nous fera avancer. Et c'est une vraie vie. L'apôtre Paul, comme Saul de Tarse, il a dû se trouver totalement vivant. C'était génial. Et tous les juifs orthodoxes l'approuvaient, le félicitaient. Et il a tout perdu et il est entré dans la vraie vie. Alors Seigneur, moi j'aimerais te demander que tu nous encourages. Qu'on puisse être réaliste avec nous-mêmes, qu'on ne se fasse pas d'illusions. Qu'on soit ouvert pour être remis en question. Seigneur, tu nous ouvres un chemin où on est rassasié, où on peut vivre le repos, parce qu'on sait que tu marches devant, parce qu'on sait que tu encourages, tu donnes la force. Alors Seigneur, délivre-nous de la folie de nos projets. Et encourage-nous pour marcher sur ce chemin d'humilité, ce chemin de dépendance, et qu'on puisse être des instruments de paix. Amener la paix là où tu nous envoies. Et je te remercie parce que tu veux le faire. En ton beau nom, Amen.